Donc, je peux commencer. Je partage mon écran. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Alors, chacun a pu se rendre compte qu'il y avait eu un petit changement de programme. C'est moi qui ouvre le bal, ou plutôt le web source, comme on vient de rectifier. Et voilà, j'avais donné un titre à cette conférence il y a quelques mois, et il figure sur le programme. C'était Les disciples d'Emmaüs, mais il est un peu incomplet, et c'est l'occasion maintenant de le rectifier. Voilà, en fait, c'est sur le chemin d'Emmaüs, à Jérusalem, rencontre bouleversante. Bien sûr, d'après le passage de Luc, chapitre 24, versets 13 à 49, voilà ce qu'on va lire, ce que je vous propose de lire ce soir. Avec ce verset clé, verset 32, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand Jésus nous parlait en chemin? Voilà, je tiens à préciser que cette rencontre a été, cette présentation plutôt a été en premier lieu prévue pour une rencontre d'adolescents et elle a été donnée donc aux Lisieux. Je l'ai adaptée pour le web source, mais j'ai gardé le style direct et j'ai employé souvent le tutoiement. Alors j'espère que cela ne froissera ou ne contrariera personne. La photo de la diapositive, ce n'est pas moi qui l'ai prise, montre une route romaine qui mène de Jérusalem à Emmaüs, et, ou du moins le supposé chemin d'Emmaüs avec des bornes de l'époque. Alors je vous propose une lecture du texte biblique et quelques réflexions sur ce sujet en toute simplicité. En premier lieu, je vous donne le sommaire. Une introduction avec quelques remarques sur l'auteur et sur son évangile. En première partie, l'apparition sur le chemin d'Emmaüs en trois scènes avec des réflexions et des applications pour nous. Une deuxième partie avec l'apparition aux disciples à Jérusalem avec deux scènes, avec toujours des réflexions, quelques applications pour nous. Et en conclusion, quelque chose à vivre que nous pouvons retenir chacun. Luc est un médecin, je n'apprends rien à personne, c'est écrit dans, l'apôtre le dit dans l'épître aux Colossiens, et il a reçu en tant que tel une formation scientifique solide, dont il a bien profité. On le voit un petit peu dans ses descriptions, lorsqu'il parle par exemple de la parabole du bon samaritain, lorsqu'il décrit comment on le soigne. Et parmi les premiers prédicateurs de l'Évangile, on peut dire que Paul et Luc faisaient partie d'une classe de personnes instruites. On peut dire que c'est le premier historien chrétien, très méthodique. Il s'attache à rapporter exactement et soigneusement les événements qu'il a collectés de la part de témoins oculaires la plupart du temps. Et il veut ainsi apporter une information complète et précise. J'ai regardé un petit peu la tradition catholique. Quelquefois, on trouve des choses intéressantes. Et Luc est considéré comme le saint patron des médecins et des services de santé, des artistes peintres aussi et des sculpteurs. Alors, cette même tradition affirme qu'il était peintre à ses heures perdues. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'il nous trace dans l'Évangile un portrait exquis de la personne du Christ. Conduit par l'Esprit Saint, certes, Luc est un vrai artiste. Il faut nous laisser toucher par la grâce, la beauté de son écriture. Par la pureté de ses compositions, la composition de ses récits qui font de son évangile vraiment un chef-d'œuvre littéraire. On voit en passant qu'il a une excellente maîtrise de l'écriture grecque et de la composition littéraire. Le livre de Luc a été écrit pour un large public, qui déborde les frontières d'Israël. Il revêt un caractère universel et pourtant, il est accessible même à un enfant. Luc y décrit toutes les étapes de la vie de Jésus, fils de l'homme, homme accompli, parfait. Il le décrit comme un homme de prière, un homme plein de compassion, un homme social, un homme qui est dans la prière. Luc a côtoyé l'apôtre Paul et a probablement connu l'hymne que celui-ci a transcrit dans Philippiens 2, chapitre 2, versets 6 à 11. Et à l'instar de ce passage, nous pouvons diviser l'évangile de Luc en quatre sections. Quelque chose de connu, mais j'aime le rappeler. Dans les deux premiers chapitres, on voit Jésus qui prend la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. C'est sa venue. Luc 3, jusqu'au chapitre 3, jusqu'à 19, jusqu'à la fin du verset du chapitre 19, on voit son ministère en Galilée et le voyage à Jérusalem. Et cela correspond à ce qui est dit dans Philippiens, il s'est abaissé lui-même. Ensuite, dans les chapitres suivants, jusqu'au chapitre 23-49, donc presque jusqu'à la fin, on a le ministère à Jérusalem et la crucifixion. Et on voit que le Seigneur Jésus est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et enfin, dans les derniers versets, fin du chapitre 23 et 24 entier, on a la résurrection et l'ascension. Et on peut dire que c'est la fin de ce paragraphe de Philippiens où on voit que Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. On peut aussi considérer deux grandes parties dans le ministère de Jésus en Galilée d'abord, jusqu'au chapitre 1 à 9, et puis dans les chapitres suivants, on a la montée au ciel en passant par Jérusalem. Alors, c'est encore, on peut dire, l'évangile de l'amour, l'évangile de la compassion, l'évangile de la grâce. Le Saint-Esprit a une place éminente. Un évangile où il y a beaucoup de l'expression de la louange, de la joie, de la prière. On a pu dire que c'est l'évangile des pauvres et aussi l'évangile des femmes. En parcourant cet évangile, on est frappé par des éléments, des mots et expressions qui se correspondent comme un écho, particulièrement entre le début et la fin du livre. Dans les chapitres 22 et 23, Luc nous décrit la plus longue nuit, avec de nombreux détails, depuis le repas pascal au soir, puis au mont des Oliviers dans un combat à genoux intense, puis quand la foule conduite par Judas est venue arrêter le Seigneur. Cette nuit où Jésus a affirmé « C'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres ». Cette nuit où s'est tenu le procès inique et cynique du seul juste que la terre ait porté, suivi de sa condamnation au petit matin, puis de sa crucifixion, de sa mort et de sa mise au tombeau. Au chapitre 24, Luc nous décrit le jour le plus long, celui où dès l'aube les femmes se sont rendues au tombeau et elles ont appris que Jésus était ressuscité. Et puis, tard le soir, le ressuscité se trouve au milieu de ses disciples et où, dans la foulée, l'auteur nous décrit l'ascension. Alors, je dis quelques mots de plus sur la finale de cet évangile. Il est possible de repérer une grande séquence narrative qui est unie et cohérente du chapitre 23, verset 50, jusqu'à la fin du livre. Et je trouve que cette séquence revêt une forme théâtrale, d'où le fond que j'ai retenu pour les diapos. Mais dans le bon sens du terme, avec une certaine unité d'action, de lieu, de temps, non avec des acteurs comédiens, mais avec des personnages authentiques et des dialogues éloquents, propres à impressionner les lecteurs que nous sommes et ces lecteurs qui deviennent alors spectateurs. La séquence est construite en forme de chiasme. On a deux séparations qui encadrent deux apparitions. Elles se scindent donc en quatre actes, compte tenu des changements de protagonistes et des lieux de l'action. On a donc, en acte 1, que j'intitule « Au tombeau », deux tableaux. Le premier tableau, séparation, avec Jésus enseveli et des femmes qui sont témoins. Et le deuxième tableau, résurrection proclamée avec des femmes aussi témoins, toujours au tombeau. Donc cet acte 1 est un petit peu à cheval sur la fin du chapitre 23 et le début de 24. Le deuxième tableau, le deuxième acte, c'est l'apparition aux disciples d'Emmaüs, qui occupe une grande place dans ce récit, dans ces chapitres. L'acte 3, c'est l'apparition aux disciples à Jérusalem. Et l'acte 4, c'est la séparation, qui est un petit peu en miroir, donc avec cette première séparation qu'on avait vue, du tombeau. Mais là, c'est la séparation de Jésus qui est élevé au ciel à Béthanie. Puis, il y a le retour des disciples à Jérusalem qui est mentionné. Alors, je fais un zoom sur les actes 2 et 3 dans le slide suivant. Voilà donc les parties que je vais considérer et sur lesquelles je vous propose de réfléchir un petit peu dans cet exposé. En acte 2, l'apparition aux disciples d'Emmaüs, je distingue trois scènes. Sur le chemin, apparition, parole partagée. Ensuite, une deuxième scène à table à Emmaüs avec le pain partagé et la disparition. Et puis, la troisième scène, c'est à Jérusalem, avec témoignage partagé entre disciples. Et puis, l'acte 3, avec l'apparition du Seigneur aux disciples à Jérusalem. Une quatrième scène, qui comprend deux scènes, la 4, avec apparition et identification. Et la cinquième et dernière, que je propose de considérer, discours et mission confiée. Voilà, donc je vous propose de relire ce texte, même si nous le connaissons tous bien. Je commence la lecture au chapitre 24, verset 13. Et voici, deux d'entre eux étaient ce même jour en chemin pour aller à un village dont le nom était Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Et il arriva, comme ils s'entretenaient et s'interrogeaient, que Jésus lui-même s'approcha et se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnurent pas. Alors il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant, et vous êtes tristes ?» L'un d'entre eux, dont le nom était Cléopas, lui répondit, « Est-ce que tu séjournes tout seul dans Jérusalem, que tu ne saches pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Il leur dit, « Quoi donc ?» Ils lui dirent ce qui concerne Jésus le Nazaréen. C'était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Mais les principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Or nous espérions qu'il était celui qui doit délivrer Israël. Mais encore avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes d'entre nous ont fortement étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues et ont dit aussi qu'elles avaient eu une vision d'ange qui déclare qu'il est vivant. Certains des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses absolument comme les femmes les avaient dites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, « Ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endure ses souffrances et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le concernent. Je reviens un instant en arrière. Voilà, dans les slides suivants, je vais faire un aller-retour fréquent entre les acteurs de la scène considérée au 1er siècle, avec une petite image, comme vous la voyez déjà, en haut à gauche, qui représente deux personnages d'époque ancienne. Et nous, lecteurs et spectateurs du 21e siècle, avec une petite image en haut à gauche qui représente deux silhouettes de notre temps. Alors, ce beau récit ne nous a été conservé que par l'évangéliste Luc. On en trouve une simple allusion dans l'évangile selon Marc. Au chapitre 16, il est dit, « Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. » ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Alors examinons cette scène ensemble et essayons d'en tirer quelques enseignements pour notre vie spirituelle. De qui est-il question ? Ils sont deux disciples de Jésus. L'un s'appelle Cléopas, l'autre n'est pas nommé, un homme ou peut-être une femme. La femme de Cléopas, on ne sait pas, peu importe. Puis, un troisième personnage mystérieux intervient. Il s'approche et marche avec les deux. Il est tellement modeste, discret, qu'ils ne le reconnaissent pas, Jésus. Mais nous, on sait qui il est. Où ? Ils viennent de quitter Jérusalem, lieu de la présence divine, il y a le temple, pour se rendre à un village nommé Emmaüs, dont le site exact n'est pas clairement déterminé. D'après le verset 13, 60 stades, il serait distant d'une douzaine de kilomètres, soit deux bonnes heures de marche. Quand ? C'est le dimanche de la Pâque juive, le 17 de Nissan. L'événement tragique qui marque les esprits ces jours-là, c'est la condamnation et la crucifixion de Jésus, le vendredi 15, l'avant-veille, ou trois jours avant, selon la manière de compter des Juifs. Jésus est mort et a été enseveli. Selon la tradition, c'est trois jours après la mort que l'âme s'envole, sans espoir de retour. Alors quoi ? Que font-ils ? Les disciples marchent, tout en discutant. Ils ressassent les événements douloureux qu'ils ont vécus ce week-end. Jésus, le rabbi, le maître, leur meilleur ami, a été crucifié. Avant sa mort, il avait bien évoqué sa résurrection, mais ça, ils l'ont oublié. Pour eux, le chemin est donc rempli de tristesse, de perplexité, d'interrogation. C'est le chemin du découragement, de la désillusion. C'est précisément sur ce chemin et dans ces entretiens que Jésus les rejoint incognito. C'est merveilleux de voir que Jésus va chercher lui-même ceux qui, trois jours avant, l'ont lâchement abandonné dans les moments de douleur infinie qu'il traversait. Matthieu 26, la fin du chapitre, nous dit « Tous les disciples le laissèrent et s'enfuirent. Il est vraiment le bon berger qui cherche ses brebis perdues. Il se met à leur pas pour les accompagner, pour les écouter, pour leur parler. » Luc a disposé les éléments de son récit pour qu'à travers celui-ci se reflète notre propre histoire, ma propre histoire, ta propre histoire. À nous de découvrir que cette scène est un miroir pour nous. Elle nous renvoie notre image, celle de notre relation avec le ressuscité. À qui ? Oublions le premier personnage et revenons sur le deuxième. Comme je l'ai dit, cet anonyme, c'est toute personne, jeune fille, jeune homme ou même quelqu'un de plus âgé, qui est invité à redécouvrir son propre cheminement de foi avec Jésus. Tu peux donc t'identifier à lui. Tu peux mettre ton nom à la place des pointillés. C'est toi qui avances dans ton cheminement de vie personnelle. Le troisième personnage, on a vu, c'est Jésus. Il est toujours le même, le ressuscité, le vivant. Il s'approche de toi. Il souhaite marcher avec toi, mais volontairement discret, effacé, comme dissimulé. Il ne s'impose jamais. Est-ce que tu seras capable de le reconnaître ? Quelquefois, tu ne le vois pas, particulièrement lorsque tu es dans le doute, dans l'obscurité. Tu chemines alors comme les disciples, le visage sombre. Il y a aussi les soucis, les difficultés, les échecs et bien d'autres choses qui peuvent te le cacher, comme des nuages, voilà la beauté, la chaleur et la lumière du soleil. Peut-être viendra-t-il à ta rencontre sous les traits d'une autre personne, d'un ami, d'une amie, ou bien encore par la parole de Dieu. Accepteras-tu de le laisser t'accompagner ? Où ? Ben partout, à la maison, dans ta chambre, seul ou avec d'autres amis, sur la route, en voiture, en bus, à la ville, à la campagne, le lieu importe peu. L'essentiel est de l'accueillir dans ton cheminement de vie, de le laisser s'approcher pour t'accompagner. Quand ? c'est le jour où tu ressens peut-être particulièrement la peine, le découragement, la souffrance, lorsque tu ressens un poids qui te semble bien lourd à porter tout seul. Voilà, c'est en fait aussi tous les jours, au travail ou en vacances, en activité ou à la retraite, le matin, à midi, le soir, même pendant la nuit. Jésus est proche, même si, comme à ses disciples, tu le suspectes d'être loin. Alors, ouvre les yeux, les oreilles, en cherchant à le voir, à l'entendre par la foi, dans tous les moments de la journée, ainsi tu le reconnaîtras. Dans quelle activité ? Voilà, quelle que soit ton activité, tu avances, tu marches, tu vis, tu travailles, tu te reposes, tu es occupé, mais sur n'importe quel chemin que ce soit, Jésus, le bon berger, veut te rencontrer. Alors on voit ici, c'est Jésus qui prend l'initiative, c'est lui qui établit le contact. En bon pédagogue, il interroge avant d'instruire. Il questionne les disciples sur la teneur de leurs propos, sur leur tristesse. Ce n'est pas de la curiosité déplacée, mais plutôt un signe d'intérêt et d'affection profonde envers eux qui le motive. Il les amène à dévoiler les motifs de leur peine, à ouvrir leur cœur devant lui. Il les écoute parler. Tout d'abord, ces derniers s'étonnent de son ignorance. Tu es bien le seul à ignorer les événements survenus ces derniers jours. La scène ne manque pas d'humour. En fait, ils croient à la mort et à la mise au tombeau de Jésus. Ils ont probablement vu, mais ils ne croient pas à sa résurrection. Leur foi bute sur la croix. Elle ne la dépasse pas. Ils refusent de croire au témoignage des femmes et à la déclaration des anges qu'elles disent avoir vu. En fait, ils souffrent à cause de leur ignorance. Et comme le dit Ronnie, ils s'affligent de celle de l'étranger. Ils sont dans l'erreur à cause de leur incrédulité. Et une fois qu'ils ont vidé leur cœur, Jésus va remplir ce vide. Jésus leur parle à son tour, pour les éclairer. La parole de Jésus tient une place majeure dans ce chapitre. Chaque fois que la parole de Jésus se fait entendre, c'est lui qui vient au sien. Il vient par la parole. Et ça, c'est hyper important aussi pour nous. D'abord, c'est vrai, il leur adresse un reproche sur leur manque d'intelligence, sur leur lenteur à croire. Mais, entièrement disponible pour ses disciples, il prend du temps pour leur expliquer la parole. Il les invite à ne pas s'arrêter au tombeau. Il les pousse à aller chercher plus loin à travers les Écritures, à creuser plus profondément pour comprendre. Il rappelle avec une grande patience les enseignements oubliés en commençant par la loi et les prophètes qui annonçaient cela. Jésus attache beaucoup d'importance sur les écrits prophétiques et leur accomplissement. Probablement leur rappelle-t-il aussi ses propres enseignements. Il fallait qu'il aille à Jérusalem, qui souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'ils soient mis à mort, qu'ils ressuscitent le troisième jour. Il leur avait dit cela maintes reprises. Alors, il ravive ainsi les braises du feu qui s'est éteint dans leur cœur. Il les fait sortir de leur enfermement spirituel pour leur donner l'espoir, pour les réveiller, pour les remplir de courage. Ce que chacun des voyageurs n'a pu apporter à l'autre en matière de soutien et de réconfort, Jésus y pourvoit largement. Il établit la vérité et fait vibrer les cœurs de chacun d'eux jusqu'à les faire brûler. Alors pour nous, pourquoi Jésus veut-il nous rejoindre, te rejoindre ? Eh bien, il veut marcher avec nous, avec toi. Il se met à ton pas pour t'écouter, pour te parler. Tu as tellement d'intérêt pour lui. Il t'aime d'un amour profond à double titre. Tu es une de ses créatures, unique à ses yeux. Il t'a conçu et voulu personnellement avec un projet spécifique pour toi. Tu comptes parmi ses fils et ses filles, au sujet desquels Dieu déclare, parce que tu es précieux à mes yeux, que tu es honoré, que je t'aime, tous ceux qui sont appelés dans mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. Selon Ésaïe 43, versets 4 à 7. Ou au psaume 139, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une étrange et admirable manière. Et puis, selon Éphésiens 2, 10, nous sommes son ouvrage, On sait que ce mot vient du grec poiema, qui a donné le mot poème. C'est celui de Dieu. Il nous a créés dans le Christ Jésus. Oui, tu es né de nouveau pour mener la vie d'un enfant de Dieu, enrichi par la présence du Seigneur. Jésus établit le contact. Il te laisse parler. Tu peux ouvrir ton cœur. Voilà quelqu'un qui s'intéresse à toi. Avec douceur, il s'inquiète de tes états d'âme, de tes incompréhensions, de tes doutes. Il connaît tes projets, il sait la voie que tu dois suivre. Psaume 32 nous rappelle « Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, je te conseillerai à mon œil sur toi. » Il t'écoute vider ton sac, lui dire tes difficultés avant d'intervenir. Puis à son tour, il te parle pour t'instruire, t'encourager, te consoler. Oh, les paroles du Seigneur Jésus! Il te rappelle les enseignements des Écritures, peut-être oubliés. Tu trouves là un exemple pour toi, une invitation à écouter ou lire la parole de Dieu pour le découvrir ou le redécouvrir. C'est une parole vivante qui te parle de lui, de ses souffrances pour toi, de sa gloire. Nous, on a le privilège de la posséder en version intégrale, alors que les disciples à l'époque n'en avaient que la première partie. Cette parole apporte la vie au-delà de la mort, la lumière au sein des ténèbres. Elle nous montre l'amour indéfectible dont le Seigneur nous aime. Jésus va alors remédier à ta situation. Il va corriger tes erreurs, il va établir la vérité, il va ranimer ton amour, il va te consoler, il va réjouir ton cœur et éclairer ton chemin. Je lis la suite du texte, versets 28 à 32. Ils approchèrent du village où ils allaient. Lui fit comme s'il allait plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche et le jour a baissé. » Il entra pour rester avec eux. Il arriva que comme il était à table avec eux, il prit le pain et il bénit. Puis il le rompit et le leur distribua. Alors leurs yeux furent ouverts. Et ils le reconnurent. Mais lui devint invisible et disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures ?» On peut se poser quelques questions. Pourquoi Jésus fait-il semblant d'aller plus loin ? En fait, il ne veut pas s'imposer. Il désire rester avec ses disciples. Mais ce n'est pas non plus une feinte, c'est une épreuve à laquelle il soumet ses compagnons. Il aurait réellement continué et les aurait quittés sans s'être révélé à eux s'il n'avait exercé sur lui une espèce de contrainte pour le retenir. Il leur serait arrivé comme lorsque quelqu'un se contente d'une première bénédiction et néglige de réclamer la plénitude qui devait suivre. Un peu comme l'on s'en tient au cocktail au lieu de prendre part au repas de noces. La réaction des disciples. Il le presse de rester. La réponse de Jésus, il accepte d'entrer pour rester avec eux. Il veut leur accorder une plus grande grâce, approfondir leur connaissance, se révéler de façon plus intime, dans un repas partagé. J'ai mis avec en caractère gras dans le texte, car il revient trois fois dans ces deux versets. Et la deuxième fois même, avec un mot grec encore plus fort, qui veut dire « ensemble ». Reste avec nous. Il entra pour rester avec eux, comme il était à table avec eux. J'ai pensé au verset d'Amos, qui nous dit « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» Alors, si une marche de concert avec quelqu'un implique une bonne entente, à plus forte raison, en est-il du partage d'un repas mentionné dans la parole de Dieu. C'est à cette occasion que le partage et la communion s'expriment au plus haut degré. Ainsi en est-il dans cette scène. Peut-être que le Seigneur utilisera la même tactique avec toi. Il fera semblant d'aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas s'imposer à toi non plus. Mais en réalité, il désire entrer dans ta maison, rester avec toi. Il veut tester l'intensité de ton désir de l'accueillir au cœur de ta vie. Quelle sera ta réaction ? As-tu aussi ce besoin impérieux de sa présence? Veux-tu l'inviter aujourd'hui pour qu'il demeure avec toi? Accepte de le laisser entrer dans ton cœur en lui faisant de la place. Presse-le de rester. La réponse de Jésus, Il accepte avec joie d'entrer chez toi pour rester avec toi. Alors il se fera un plaisir de se révéler à toi d'une façon personnelle. Les voilà arrivés à destination. Que fait Jésus? Il prend le pain et il bénit. Il le rompt et le leur distribue. Que montre le geste de Jésus? Le pain rompu est une image saisissante de la mort du Seigneur et le seul moyen de salut pour l'homme pécheur. Ce pain, hein, c'est aussi sa vie. C'est le don de Dieu qu'il offre aux hommes pour nourriture. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, dit le Seigneur en Jean 6, 51. Le pain explique tout. Il montre Jésus. Alors Dieu le Père ouvre leurs yeux. Ils le reconnaissent. Lorsqu'il est dit « leurs yeux furent ouverts », on peut penser que c'est le passif divin. Et d'autres que le Père aurait pu ainsi agir. Et bien sûr, à la vue du pain rompu. Je ne résiste pas au désir de vous dire quelques mots sur ce tableau de Rembrandt que j'ai choisi pour illustrer la scène. Malgré les 10 tableaux, paraît-il, qu'il a peint sur ce même sujet, qu'il peindra par la suite, celui-ci, c'est une œuvre de jeunesse qui demeurera le plus grand aboutissement mystique. Dans cette composition, le jeune Rembrandt, qui a 22 ans à l'époque, utilise un contre-jour violent pour mettre en valeur la figure du Christ, son mystère. L'ombre qui enveloppe le personnage, qui se révèle aux pèlerins, laisse toute latitude au spectateur de s'interroger sur les traits du Christ. Le tableau aussi nous montre trois attitudes possibles face au Christ ressuscité, qui sont incarnées par les trois personnages. Il y a la servante qui est au fond, à gauche, je ne sais pas si vous la voyez très bien. Elle est absorbée par son service et elle semble indifférente à ce qui se passe. Le disciple, éclairé par la lumière, qu'on voit mieux, exprime dans un geste théâtral sa surprise. On devine son sursaut lorsqu'il reconnaît le Christ. Son incrédulité fait place à l'étonnement. Tandis que le deuxième, dans l'ombre, au premier plan, est tombé de sa chaise et se prosterne aux pieds du Messie dans l'adoration. Vous pensez à ce verset de 2 Corinthiens 4-6, selon une version, seconde peut-être, où il est dit que des ténèbres resplendissent la lumière. Rembrandt, on l'a dit, est le peintre qui fait vivre les ténèbres. Ce repas peut nous faire penser au repas du Seigneur, 3 jours avant. Qu'a fait Jésus ce soir-là? Ayant pris un pain, ayant rendu grâce, il rompit et le leur donna, en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, la coupe aussi, après le souper, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Luc 22, 19, 20. Jésus a vivement désiré partager ce repas avec toi. Que lui répondras-tu? Oseras-tu refuser l'invitation chaleureuse de cet ami? Il t'invite. Oh, réponds-lui oui. Que montre le geste de Jésus? Il montre qu'il est mort pour toi. Sa mort t'apporte le salut et la vraie vie. Il est le pain de vie. Il faut commencer par le recevoir personnellement, lui faire pleinement confiance. Il donne la vie éternelle à ceux qui se nourrissent de lui. Comme la nourriture que tu absorbes pénètre en toi jusqu'à faire partie intégrante de toi-même. En te nourrissant de Christ, tu demeureras en lui et il demeurera en toi, selon Jean 5, verset 56. Alors tu apprendras à toujours mieux le reconnaître et à le connaître. Pourquoi Jésus devient-il invisible? Les disciples devront s'habituer à une communion invisible et spirituelle avec lui. Le miracle, en fait, ce n'est pas sa disparition, c'est plutôt son apparition, l'apparition du ressuscité aux deux disciples sur le chemin. Mais ici, tout rentre dans la normalité. Jésus devient invisible. Il ne le voit plus. Est-il parti? Le texte ne permet pas de l'affirmer. Quel a été l'effet de cette rencontre? Les disciples réalisent après coup que leur cœur a brûlé en l'écoutant parler. Les paroles de Jésus qui a cité, commenté les Écritures ont allumé un feu dans leur cœur, un feu qui n'est pas près de s'éteindre. Leur tristesse a été changée en joie. La mort qui les obsédait a fait place à la vie irradiante du ressuscité. Ils sont redevenus disciples du Maître. Quel changement de vision s'est produit? Ils réalisent qu'ils étaient engagés sur une mauvaise voie, pleins d'enthousiasme malgré l'heure tardive et la nuit déjà tombée. Ils retournent le soir même à Jérusalem. Ils ne veulent pas rester enfermés dans l'isolement. Ils veulent témoigner, partager d'autres cette bonne nouvelle du Christ ressuscité, manifester à leur tour cet amour qui les enflamme. Alors pour nous, pourquoi Jésus devient-il invisible? Eh bien, nous aussi, on doit comprendre que ce n'est pas la présence physique du Seigneur qui est essentielle. Au contraire, cette présence est restrictive. Elle ne peut être appréciée que pour ceux qui se trouvent dans une proximité physique, historique et géographique. Mais c'est sa présence spirituelle qui se vit par la foi. Le Seigneur Jésus sera toujours présent avec toi jusqu'à la fin. Tu ne seras jamais seul ou livré à toi-même. Tu pourras jouir constamment de la compagnie du Fils de Dieu par son esprit qu'il te donne, en sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs. Selon Éphésiens 3, verset 17. Quel est l'effet de cette rencontre? Alors notre cœur brûlera l'entendant, ton cœur brûlera l'entendant. Sa parole te réveillera, te remplira d'enthousiasme et de force. Quel changement de vision cela produira-t-il? Eh bien, toi non plus, tu ne voudras pas te confiner dans l'isolement. Tu auras envie de te joindre à d'autres croyants, témoigner à d'autres, partager avec d'autres cette bonne nouvelle du Christ ressuscité. Tu voudras manifester à ton tour cet amour qui t'enflamme, à des croyants ou avec des non-croyants. Voyons encore quelques conséquences dans la suite du texte. Versets 33 à 35. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent rassemblés les 11 et leurs compagnons qui disaient « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Eux-mêmes racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s'était fait connaître à eux dans la fraction du pain. Alors, quelle décision prennent-ils après cette disparition? On l'a vu, ils se rendent compte que le chemin de Jérusalem vers Emmaüs était un chemin aberrant. Ils se lèvent aussitôt et retournent à Jérusalem. Cette rencontre a revigoré les voilà animés d'un nouvel élan qui les pousse à se lever et à retourner à Jérusalem. Ce sont des termes forts. Le verbe « se lever », c'est le même que celui qui est employé pour « ressusciter ». Et « se retourner » est un sens proche de « se convertir » aussi. C'est comme une résurrection, un changement de cap radical dans leur vie, une nouvelle direction qu'ils prennent, un nouveau départ. Ils vont retrouver les 11, qui ne sont que 10 d'ailleurs, rassemblés. Que disent les 11? Le Seigneur est réellement ressuscité. Verset 33. Les disciples, paraît-il, dans l'Église primitive, répondaient à ce message en ajoutant « Il est vraiment ressuscité ». La première partie de la salutation, c'est la proclamation de foi dans le fait historique de la résurrection de Jésus. Mais la suite apporte une deuxième dimension à ce témoignage, celui de la transformation des disciples eux-mêmes qui résulte de leur rencontre avec le ressuscité. Que répondent-ils? Ils témoignent des paroles entendues en chemin et du pain partagé à table qui leur a permis de reconnaître le ressuscité. Alors pour nous, quelle décision prendre? Eh bien, Jésus veut donner un vrai sens à notre vie. Il veut nous faire prendre la bonne direction. Quel témoignage recevons-nous de lui? Le témoignage que l'on reçoit, c'est le même. Que le Seigneur est réellement ressuscité. Le témoignage des disciples par les Écritures traverse le temps et l'espace. Il parvient jusqu'à nous aujourd'hui. Puissions-nous répondre à notre tour, il est vraiment ressuscité. Si nous ne sommes pas témoins d'avoir vu Jésus vivant sortir du tombeau, la vie des apôtres, en particulier celle de nombreux chrétiens, en témoigne. On peut croiser des personnes qui ont été transformées par une rencontre avec le ressuscité. Alors soyons-en sûrs, il est vraiment ressuscité. Ce n'est pas juste un événement du passé, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui. Il est vraiment ressuscité, il est vivant. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous invite à en être les témoins. Notre vie, si elle l'a déjà été, peut être transformée par la rencontre avec le Seigneur ressuscité. Que pouvons-nous partager? Eh bien, chacun peut témoigner de sa rencontre avec le Christ, de tout le bien qu'il a reçu de lui, de tout le changement qu'il produit dans sa vie. Ce partage devient enrichissement mutuel. Chacun a besoin de ses frères et sœurs en Christ pour avancer dans la connaissance du Seigneur. Nous avons encore la suite, à partir du verset 36 jusqu'au verset 43. Et comme il disait cela, Jésus se trouva lui-même là, au milieu d'eux, et leur dit « Paix à vous ». Et eux, tout effrayés et remplis de crainte, croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi des raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est moi-même. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a pas de la chair et des os comme vous constatez que j'ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme de joie, ils ne croyaient pas encore et s'étonnaient, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson cuit et quelque peu d'un rayon de miel. Il le prit et en mangea devant eux. Ce tableau nous montre des disciples rassemblés. Déjà, l'Église est là, rassemblée ce dimanche, premier jour de la semaine. La communauté annonce la bonne nouvelle à partir du témoignage d'un des leurs, Pierre. Il croit sans avoir vu. Aujourd'hui, nous avons le même privilège qu'eux. N'as-tu pas plaisir à te joindre à des croyants qui aiment le Seigneur pour le rencontrer lui, pour goûter des moments forts avec lui, que ce soit pour le louer, le prier ou lire la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus se trouva au milieu d'eux, avec une salutation de paix. C'était une apparition miraculeuse. Les craintes des disciples concernent leur nouvelle relation avec le Christ. On a peur de le perdre de nouveau. Jésus leur explique, et à nous aussi, que la résurrection ne l'éloigne pas d'eux. Il reste avec nous tous les jours et tout spécialement au milieu de ceux qu'il aime. Jésus est et reste solidaire de tout homme. Voyez mes mains et mes pieds, c'est moi-même. Les plaies en son corps attestent que le ressuscité les aime autant que le crucifié. C'est bien la même personne. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a pas de la chair et des os comme vous constatez que j'ai. Jésus veut nous montrer que son corps est bien réel. Il reste encore de la même nature humaine que nous. Dans Genèse chapitre 2, verset 23, Adam peut dire « Cette fois, celle-ci est haut de mes os et chair de ma chair. » Dans 2 Samuel aussi, toutes les tribus d'Israël, au chapitre 5, au premier verset, il est dit « Toutes les tribus d'Israël vinrent vers David à Hébron et parlèrent disant « Voici, nous sommes ton os et ta chair. » Voilà, le Seigneur veut montrer qu'il est un humain, comme nous. Avez-vous ici quelque chose à manger? Jésus signifie par là qu'il veut, comme autrefois, être le compagnon, celui qui partage le pain, l'ami, le frère. Il veut être notre hôte, encore aujourd'hui et pour toujours, s'inviter à la table de notre cœur chaque jour. Maintenant, aussi, comme autrefois, là où on parle de lui, là il vient. Sa présence est signe de paix pour tous ceux qui l'aiment. Il est fidèle à sa promesse. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, tout à l'heure j'ai dit le dernier verset, c'est cette fois les derniers versets. Je lis donc la fin de ce que du passage que je vous ai proposé à partir du verset 44. Jésus leur dit « Telles sont les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Il fallait que soit accompli tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffre et qu'il ressuscite d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous, vous êtes témoin de tout cela. Et voici, moi, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Après cette apparition du Seigneur, il y a donc une mission qui est confiée. Tout d'abord, le Seigneur leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. Les disciples comprennent alors qu'après la résurrection du Seigneur, les Écritures annoncent que la repentance et la rémission des péchés doivent être prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Voilà leur mission. Vous, vous êtes témoins de tout cela. Ils auront la mission de rapporter à d'autres les belles choses qu'ils ont expérimentées avec Jésus. Voici, moi j'envoie sur vous la promesse de mon Père, verset 49. C'est le précieux auxiliaire que le Seigneur va accorder aux siens. Les disciples ont reçu l'Esprit Saint 50 jours plus tard, à la Pentecôte, comme la confirmation de la promesse du Seigneur. Et pour nous, il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. Le Seigneur nous envoie encore dans le monde. Peut-être pas au bout de la terre, mais dans ce monde, ça peut être chez notre voisin, la porte à côté. Déjà simplement autour de nous pour continuer son travail et celui de ses disciples. Soyons-y attentifs. Vous, vous êtes témoins de tout cela. Nous aussi, nous pouvons témoigner de notre rencontre avec Jésus, le vivant. Non pas physiquement, mais avec une rencontre spirituelle. Et rapporter à d'autres notre expérience. Voici, moi j'envoie sur vous la promesse de mon Père. C'est le précieux auxiliaire que le Seigneur accorde aux siens. Nous le possédons également, au même titre que les disciples. Dès que nous croyons à l'Évangile, nous sommes scellés du Saint-Esprit de la promesse, selon Éphésiens 1, verset 13. Il nous conduit dans toute la vérité et nous communique l'énergie nécessaire pour accomplir la mission confiée. On retrouve un texte semblable en Jean, chapitre 20, verset 21. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus leur dit encore, paix vous soit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Luc nous a décrit ces deux rencontres du ressuscité en respectant le même schéma de composition que je désire souligner dans ce tableau. Aujourd'hui encore, il veut nous rencontrer au travers de situations ordinaires de notre vie. Sachons démêler les indices pour à notre tour discerner sa présence et le reconnaître. Dans nos circonstances quotidiennes, il veut nous rappeler par la parole son intérêt envers nous, sa sollicitude et nous partager son amour. Sachons l'accueillir dans toutes nos difficultés, sachons témoigner des bienfaits, des grâces dont il nous comble. Donc ce tableau montre un parallèle entre à gauche la rencontre sur le chemin d'Emmaüs et à droite l'apparition aux onze. Avec des versets qui sont vraiment similaires dans les deux scènes. Alors, j'arrive à la conclusion. Ce chapitre montre une unité d'action remarquable. Il nous présente la reconnaissance progressive de Jésus ressuscité par les siens. Quand la foi pascale est implantée parmi les disciples, l'ascension, on ne l'a pas lu, mais c'est les versets suivants, vient signifier que désormais, chaque croyant et l'Église entière doivent vivre le temps de l'absence de Jésus. Les chrétiens de l'Église du temps de Luc et nous-mêmes, sommes-nous donc alors désavantagés par rapport à cette toute première génération de disciples à laquelle le Christ ressuscité s'est donné à voir? Sommes-nous privés de faire l'expérience de Jésus le vivant et de le rencontrer mystérieusement? Certes non, nous répond l'évangéliste. Bien au contraire. Si Luc nous a rapporté des récits d'apparition pascale assez longs et détaillés, c'est que la vérité qu'il véhicule a toujours la même actualité. Nous pouvons rencontrer le Christ alors même qu'il est invisible à nos yeux. En rédigeant ce chapitre, Luc montre aux croyants de tous les temps plusieurs façons d'entrer en relation avec le Christ ressuscité. Cheminer avec le Christ au quotidien, participer à la fraction du pain, étudier les Écritures, rencontrer avec les siens réunis. Quand le Christ nous rejoint, notre cœur est déjà brûlant en nous, comme lors de la rencontre d'un ami. Le Seigneur Jésus désire être notre compagnon dans toutes nos activités quotidiennes. On a lu ce beau verset qui est toujours d'actualité. Jésus lui-même s'étant approché, se mit à marcher avec eux. La question se pose, voulons-nous marcher avec lui? Si nous le connaissons comme notre Sauveur, alors son Esprit Saint habite en nous, notre corps en est le temple. C'est à nous de nous laisser conduire par cet Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Comme croyants, nous avons une vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors nous devons avoir une nouvelle manière de vivre. Il veut être notre hôte comme invité à notre table chaque jour. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Voulons-nous lui ouvrir la porte? Voulons-nous l'accueillir dans notre vie? Le Seigneur est heureux de voir ses rachetés se rencontrer autour de lui pour louer, prier. Voulons-nous le rencontrer au milieu des siens réunis? Le Seigneur désire beaucoup que les siens se souviennent de lui à son repas. Voulons-nous nous asseoir à sa table? Le Seigneur nous encourage par sa parole. Voilà une merveilleuse occasion de le rencontrer. Cette parole, reçue avec foi, réchauffera notre cœur. Voulons-nous lire assidûment la parole pour mieux le connaître? Que ce soit notre désir le plus cher, qu'avec son aide, nous répondions oui à toutes ces questions. Répondons-lui oui. Alors nous pourrons être libres et heureux. Lui avec nous et nous avec lui. On pourrait même dire lui en nous et nous en lui. Voilà, je ne sais pas si ça va marcher. Thank you. Je ne sais pas si on l'avait entendu. Donc, il manque la strophe 4. Je n'ai pas pu la trouver enregistrée. Quand sur nos vies la nuit descend, Seigneur, reste avec nous. Partage-nous encore ton pain. Nous te reconnaissons. Voilà, j'en ai fini. Merci pour votre attention.
Merci bien, Jean-Paul. Guillaume s'est absenté une minute. Hein. Mais c'est peut-être un petit moment de question, de précision. Tu nous as dit beaucoup de choses qu'on a bien appréciées, en tout cas pour moi. Et il y a peut-être des choses à éclaircir. Je ne sais pas si quelques-uns ont deux, trois petites choses. Il est déjà, il est quelle heure? Il est 9h10, c'est pas trop tard.
Jean-Paul, m'entends là, ouais. Est-ce que tu pourrais réexpliquer le chiasme au début là, entre les femmes et les hommes qui... Tu as expliqué une structure en chiasme au début et j'ai pas tout compris en fait. J'ai pas eu le temps d'écrire.
Disons que c'est sur les quatre. Vous pouvez revoir peut-être le slide.
Merci.
Il y a donc séparation. Au début et séparation à la fin. Séparation, c'est la mise au tombeau d'abord du Seigneur. Et les femmes sont témoins de cette séparation. Et ensuite, donc, il y a la séparation du Seigneur au moment de l'ascension, lorsqu'il monte au ciel, avec un contraste. Donc, la première séparation, c'est lorsqu'il a été enseveli, il a été mis au sein de la terre. Et voilà, cette deuxième séparation, c'est Jésus qui est élevé au ciel. Et puis la partie centrale, donc, c'est avec deux apparitions. L'apparition aux disciples d'Emmaüs sur le chemin et l'apparition aux disciples aux 11 rassemblés à Jérusalem. Donc, c'est un chiasme avec quatre parties, quoi, hein. Les deux parties externes et deux parties médianes qui sont à miroir.
Donc, c'est un chiasme en AB, B', A', c'est ça?
Voilà. Hein, ouais. Merci. Merci beaucoup.
Il n'y a pas de quoi.
Ouais, Jean-Paul, merci pour cette présentation. Moi, j'ai trouvé intéressant ce que tu as dit sur les versets 28 et 29 au moment où Jésus, effectivement, paraît vouloir aller plus loin, et c'est vrai que c'est un peu mystérieux de se demander pourquoi il fait ça. Mais en fait, je crois qu'il y a ce que tu as dit, c'est-à-dire, effectivement, il montre sa délicatesse, dans le sens où il ne veut pas s'imposer, mais en même temps, du coup, il suscite la nécessité de s'engager, c'est-à-dire que les disciples d'Emmaüs, ils doivent s'engager à continuer à écouter. Et je trouve que c'est bien aussi, et c'est même ce que nous apprend la communication, c'est que si on parle assez longtemps, et ça a sûrement été le cas de Jésus quand il a détaillé et expliqué tout ce qui est dit dans les versets précédents, ben, à un moment donné, tu as besoin de ce qu'on appelle un feedback, hein, mais je veux dire, et de savoir que l'autre, il te suit toujours, et que l'autre, il est toujours. Mais en même temps, c'est plus que ça, c'est un engagement, c'est continuer à rester avec nous pour nous parler. Donc, je ne l'avais pas vu comme ça, donc ça m'a intéressé que tu présentes comme ça, parce qu'on passe sur ce verset, et moi je m'étais toujours dit pourquoi il paraît vouloir aller plus loin, mais en fait c'est vrai que du coup il les met un peu au pied du mur, de qu'ils ne soient pas des auditeurs passifs, mais effectivement qu'ils écoutent.
Certains ont pu le comparer peut-être, quoi qu'on a entendu diverses appréciations sur l'attitude de Naomi envers Ruth. Cette attitude a été vue selon certains de façon soit positive soit négative. Il semble qu'elle veut décourager un petit peu sa belle-fille à venir la rejoindre à Bethléem. Et à plusieurs reprises, il semble qu'elle insiste pour qu'elle ne la suive pas. Et en même temps, peut-être c'est aussi pour exercer sa foi, ou peut-être c'est, voilà, certains ont pu critiquer Naomi d'avoir agi ainsi. Et pour qu'elle aurait découragé la foi peut-être de Ruth, mais le résultat en fait ne l'a pas découragée. Ruth s'est engagée et a suivi, a voulu en connaître davantage. Elle connaissait sûrement déjà ce Dieu d'Israël, elle a voulu en connaître plus. Voilà, donc ici, je crois que oui, le Seigneur désire de chacun un engagement, de la motivation et voilà, il désire que notre volonté soit un exercice aussi dans ce domaine.
Alors, j'ai une question d'Henri. Parce que j'ai eu une coupure au moment où tu es arrivé sur cet instant de la reconnaissance. Ils reconnaissent don Jésus. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Est-ce qu'on peut penser, mais tu l'as peut-être dit, qu'au moment où il a avancé ses mains pour rompre le pain, ils ont vu les traces des clous sur ses mains?
Je n'ai pas souligné ce détail qui est probable, effectivement. On insiste sur le geste, comme le verset indique que c'est lorsqu'il a rompu le pain qu'ils l'ont reconnu. Ils avaient certainement dû vivre avec lui des moments semblables et ce geste de Jésus qui agissait comme l'hôte, non plus comme l'invité, mais comme celui qui était le maître de la maison, pratiquement, puisqu'il rompait le pain, a dû parler à leur cœur. C'était vraiment le geste du maître, du Seigneur. Alors, en plus, les blessures aux mains n'ont plus qu'apporter une preuve supplémentaire à ce moment-là.
Ce qui n'enlève rien de l'action de cet esprit, évidemment. Mais ça vient confirmer.
Oui. Mais le texte dit bien que c'est à ce moment-là que la reconnaissance s'est faite.
D'autres questions peut-être?
Juste une remarque, on aurait bien aimé écouter la méditation du Seigneur Jésus sur son annonce dans l'Ancien Testament, ça devait être remarquable. On ne sait pas trop combien ça a duré, pas si longtemps que ça, il devait sans doute être assez, parce que la route n'est pas si longue que ça, tu as dit 12 kilomètres je crois.
Oui, c'est ça, oui.
Donc 12 kilomètres à pied, c'est 2 heures.
Oui, c'est environ sûrement.
À peu près. Donc la méditation, elle a duré, allez, disons 1 heure. Et faire le parallèle entre lui et tout ce qui est dit sur lui dans l'Ancien Testament en 1 heure, mais chapeau bas. Hein.
Et oui, c'est remarquable aussi que. Il a pris les choses dans l'ordre, commençant par Moïse, donc par le Pentateuch, pour annoncer ce qu'il avait à leur dire, ses souffrances, et les prophètes. Ouais. Est-ce qu'il aura parlé des sacrifices de Lévitique? Est-ce que déjà il a parlé de les sacrifices d'Isaac dans la Genèse, voilà, on est.
Il a dû passer par Ésaïe 53 sans doute.
Voilà, pour les prophètes, oui.
Mais c'est sûr, on peut dire que si ce texte nous avait été conservé, c'est sûr qu'on l'aurait pris comme un trésor, un joyau, quelque chose comme un modèle à répéter, voire à en transformer en hymne, à apprendre par cœur, que sais-je. Je me demande, moi aussi ça m'a longtemps frappé, ça j'aurais bien aimé évidemment, je me demande si Dieu ne l'a pas fait exprès, Enfin, je ne me demande pas. J'ai bien compris que Dieu le fait exprès de ne pas nous dire ce dont on n'a, entre guillemets, pas besoin. C'est peut-être pour que chacun, chacune, nous fassions notre chemin personnel. Ce chemin auquel Jésus invite les disciples d'Emmaüs, eh bien, chacun de nous, faisons-le, et c'est chacun son chemin personnel, à travers, si j'ose dire, le plan qui nous est donné.
Il nous a donné la méthode.
Oui, oui, oui. Et moi, finalement, je trouve que quand on compare et qu'on regarde aussi la façon dont il en parle aux disciples de Jérusalem, et là, Jean-Paul l'a dit, au verset 44, effectivement, il mentionne tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc là, c'est l'Ancien Testament complet, on pourrait dire. Hein. Mais ensuite, il ouvre l'intelligence. Et bon, pour ouvrir l'intelligence, on pourrait se dire, comme ils étaient sûrement bouchés, hein, je pense qu'on est pareil qu'eux, mais il doit falloir du temps. Et en fait, ça tient en deux versets, hein, versets 46 et 47. En fait, ce qu'il faut essentiellement comprendre, du coup, de l'Ancien Testament, c'est que c'est cette prophétie que le Messie souffrirait, qui ressusciterait, et qu'il y aurait une extension, quelque part, du salut à toutes les nations. Finalement, c'est assez compact, hein, tout ça.
Est-ce que ça ne ressemble pas au message qu'Étienne donne devant les Juifs en acte 7, où il répète un petit peu tout le déroulement des prophètes, depuis Moïse jusqu'au prophète.
Mmh. Ouais. Le verset est fort, je trouve, dans les expressions. Il écrit « commençant par Moïse et par tous les prophètes », ça veut dire que c'est seulement le début, et ça veut dire qu'il y avait autre chose. Et ça veut dire que certainement, il y a eu les psaumes ensuite. Hein. On sait que les divisions, c'est Moïse, les prophètes et les psaumes, ou les écrits. Et puis, il est dit dans toutes les Écritures. Ça a dû quand même être une explication assez, assez exhaustive, hein, je veux dire, assez complète en tout cas, assez merveilleuse.
Il y a aussi peut-être une dimension dans ce texte, tu l'as dit un peu, de modèle pour nous, comment nous approcher de personnes, hein, ce que c'est que l'écoute, ensuite, hein, prendre connaissance des souffrances des personnes, des souffrances des personnes, hein, et la réponse à la souffrance est souvent une mauvaise compréhension des choses, des mauvaises indications, on peut dire. Alors, Jésus redonne ses points de repère, hein, avant qu'il y ait une révélation, quelque chose qui se révèle justement dans cette communion. C'est un chemin pour nous, un chemin d'accompagnement qui est modèle pour nous.
C'est des passages de la parole qui sont extrêmement riches. Et les applications sont fort nombreuses.
Encore une question ou deux, et puis on s'arrête là. En tout cas, merci Jean-Paul, parce que on a bien senti que tu t'es régalé à préparer ça, et nous aussi à t'écouter, avec un de ces maîtres mots du passage, à partager cela. Ouais. Merci beaucoup encore, et puis merci à chacun et à chacune, et puis à bientôt, probablement demain matin.
Ok.
Et bonne nuit.
Voilà. Bonsoir.
Merci beaucoup, Jean-Paul.
Une dernière question.
Ah, dernière question, chouette.
Mais pas en rapport avec le texte.
Un post-scriptum.
Voilà. Pourquoi le tableau a été changé apparemment. C'est Jean-Paul était prévu le 27.
Oui.
Est-ce qu'il y a un nouveau tableau?
Il y a un nouveau tableau. Je ne sais plus quelle est la différence entre les deux. Parce que, oui, il y a eu un changement de personne. Ça vous intéresse? Attendez, faites voir le tableau que je le regarde rapidement. Je ne le connais pas par cœur. Donc, demain matin, Abraham et le mouvement vegan demain soir. Ça n'a pas changé, je crois. Hein, pour ceux qui l'ont sous les yeux.
Il y a seulement une inversion entre Michel Carle et moi-même, donc entre le jeudi matin.
Exactement. Et... Voilà. Pour le résumer, il n'y a pas d'autre changement. Ça s'est fait un peu à la dernière minute. Je crois que Guillaume n'a pas eu le temps de le dire à tous ou à tout le monde ou à personne. J'en sais pas. Ah,
merci.
J'espère que ça ne vous a pas trop déstabilisé.
Ah si.
Bon. Eh bien, c'est un petit peu la méthode du Seigneur aussi, hein, de nous déstabiliser pour nous faire réfléchir. Allez, bonne nuit alors.
Hein. Oui, bonsoir.
À demain.
Oui. Bonsoir à tous.
Voilà.
Bonne nuit, au revoir.
Bonne nuit.
Merci Jean-Paul.
Comment on quitte? Voilà.
Richard, j'aimerais bien faire un essai de partage. Est-ce que tu es toujours là, derrière le PC de Guillaume? Bon, on le fera demain, sinon c'est pas grave. Hein. Ça devrait fonctionner, il n'y a pas de raison. Allez, bonne soirée à tous.